Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis non pas face à Cédric Villani, mais je suis au téléphone avec Cédric. Bonjour Cédric.
Bonjour Étienne.
Aujourd'hui, et dans cette série, nous discutons d'un mot. Un mot qu'on entend partout, dans tous les médias, à la radio, dans les journaux, etc. Et qui agace un peu les mathématiciens parce qu'il est mal employé. Alors, quel est le mot que tu as choisi, Cédric ?
Eh ben moi, j'aimerais bien parler et pousser ma petite gueulante contre l'expression 1000%.
C'est énervé, je m'en rends bien compte.
Donne-moi un exemple d'abord où c'est mal employé.
Si tu as une très très forte inflation, les prix qui vont grimper, être multipliés par 10 ou 11, c'est vu dans certaines crises, et là on peut dire effectivement qu'il y a eu une augmentation des prix de 1000%. Mais c'est pas dans ce sens-là qu'on l'entend employer tout le temps. C'est quand les gens qui disent « je suis à fond » ou « je suis complètement d'accord avec toi »,« je suis d'accord avec toi à 1000%, je vais me donner à 1000% pour ça », etc., etc. Et ça, ça n'a pas de sens. On a une expression pour dire à fond, si on veut le mettre en termes de pourcentage, ça s'appelle 100%.
Moi, quand je shoote le déjeuner, je ne fonctionne plus à 100%.
C'est une unité, c'est complet, on ne peut pas faire plus. Dès qu'on commence à vouloir le dépasser, on part dans un monde qui peut être poétique, mais qui contribue à dévaloriser toute signification à ce mot très clair et net qui est 100%.
Ça fait penser un peu à ces gens qui disent une probabilité de 150%.
Ah bah oui, alors c'est exactement pareil. Probabilité de 50%, ça a exactement aussi peu de sens que 1000%. Let me tell you how it will be. On observe aussi qu'il y a eu une sorte de dérive. Au début, on disait 200%, puis on a entendu 300%. Maintenant, les gens disent 1000%, voire 10 000%. Hein, qui sait où ça ne s'arrête pas. Et ça contribue aussi à dévaloriser le sens du nombre, alors qu'on sait que c'est un problème grave pour nos jeunes qui arrivent en sixième, incapables d'identifier 25% à un quart, incapables de placer un demi sur une échelle de nombre. Et on ne va pas leur jeter la pierre, ils sont ni plus ni moins bêtes que les jeunes d'une génération avant, mais qui ont été beaucoup moins exposés à cette espèce de gymnastique quotidienne et de rigueur de faire les conversions entre les fractions, les nombres à virgule et les pourcentages.
J'ai cru comprendre qu'on essaye de changer l'enseignement des fractions, qu'est-ce que tu en penses ?
Ma position, elle est claire, c'est ce que je pense. On peut essayer toutes les méthodes qu'on veut, toutes les façons de faire qu'on veut, tant qu'on n'aura pas résolu le problème majeur de l'éducation mathématique et l'éducation nationale en général, qui s'appelle la crise de vocation et de sens du métier d'enseignant, on n'ira nulle part. Notre problème, c'est avant tout d'avoir des enseignants fiers de leur métier, bien payés, qui on donne des moyens, des bonnes formations, formation initiale, formation continue, accompagnées, et qui soient à qui la société donne toutes les bonnes conditions pour faire ce métier. Et après, je dirais, la méthode qu'on emploie pour faire ci ou ça, pour moi, est un problème bien moins important que le fait d'avoir un corps professoral heureux, fier et avec des moyens.
Qu'est-ce que tu dirais d'un enseignant qui donne comme exercice en classe de troisième, simplifié, 1/7 plus 1/5, le tout divisé par 3/4 plus 7/13?
Eh ben, je dirais que ça me rappelle exactement les exercices que j'avais moi en classe de troisième. Alors mon prof de troisième nous filait des exercices bien costauds, paquet d'exercices. Et justement, la discipline, quand on a ces fractions avec fraction dénominateur, fraction numérateur, des fractions de fractions, la discipline qu'on doit faire pour comprendre, simplifier comme il faut, une fois qu'on sait faire l'exercice, on a vraiment compris le concept de fraction. Tu vas me dire peut-être que l'exercice matière compliquée comme ça, s'il s'inscrit dans toute une progression où on a allé des exercices simples vers exercices compliqués, s'il est passé par suffisamment de temps, s'il y a eu les exercices à la maison, les exercices en classe et tout ça, en tant que tel, il ne choque pas.
Moi, je vais t'avouer une de mes grandes faiblesses. Je suis incapable de faire un pourcentage avec une calculette et la touche pourcent.
Je t'avoue que moi, je l'utilise jamais non plus. Bon, il y a eu des grandes avancées dans l'histoire des calculettes, hein, quand on s'est mis à faire les puissances, les extractions de racines carrées et tout ça, mais la touche pourcent, je suis d'accord avec toi, elle ne sert pas tellement à grand-chose. Je voudrais revenir sur ton histoire d'exercice là. Il y a un truc en mathématiques sur lequel il faut insister. Mathématiques, c'est peut-être la discipline par excellence où tant que t'as pas fait les exercices, t'as pas compris. À tous les niveaux, hein. Tant que ce soit, ça va de l'école primaire jusqu'à la thèse, tant que t'as pas fait la mise en œuvre, t'as pas compris le concept. Tu crois avoir compris, mais tant que tu l'as pas fait, t'as pas compris. Et il y en a plein des exemples que je pourrais citer où le fait d'avoir fait un exercice m'a d'un coup fait comprendre que j'avais pas vraiment compris le concept pour les... Ça, c'est pour les fractions, c'est pour les notions de fonction, c'est pour tout ce que tu veux. Et tant qu'on n'a pas réussi à faire les simplifications compliquées de fractions, on n'a pas vraiment compris. En revanche, si on a la routine pour simplifier les fractions complexes, là c'est bon, ça veut dire qu'on a vraiment compris.
Est-ce que tu ne penses pas que les manuels scolaires vont dans le côté un peu opposé ? C'est-à-dire que... Il y a très très peu de concepts et il y a des foultitudes d'exercices qui se ressemblent tous entre eux.
C'est vrai qu'ils sont pleins d'exercices. C'est vrai qu'ils sont aussi, mais c'est peut-être à la mode du temps. Je vais passer pour mon vieux ronchon. Plein de couleurs, plein de choses un peu tapageuses et surprenantes. Les manuels dont j'ai souvenir étaient un peu plus austères. Très franchement. Peu m'importe le manuel, tant que les profs sont bien à fond, que la relation élève-prof est bonne, pour moi, c'est quelque chose qui se résout bien plus en question humaine qu'en question technique.
Est-ce que tu serais d'accord avec l'affirmation que l'enseignement des mathématiques du CP jusque la terminale consiste à comprendre la linéarité, la proportionnalité?
Pas vraiment. Comprendre la linéarité et la proportionnalité, c'est sûr que c'est une étape. Les deux sont importants et il y a plein de façons de voir la linéarité et la proportionnalité. Dans le temps, on parlait de règle de 3. On dit moins règle de 3 maintenant, mais la règle de 3, c'était rien d'autre que comprendre la proportionnalité. Et on peut le voir de plusieurs façons. On peut le voir à travers la formalisation des fractions, on peut le voir en posant l'équation, on peut le voir en faisant la méthode directe comme on aimait bien faire dans le temps à l'école primaire. C'est important un concept de le voir et le revoir sous toutes les facettes. Et je pense pas du tout que la question mathématique en son ensemble se résume à la linéarité et à la proportionnalité, mais je pense que c'est un élément majeur.
Et qu'on le voit sous plein d'aspects. On le voit... Le théorème de Thalès ou autre, ça n'est finalement que de la proportionnalité.
Le théorème de Thalès, c'est de la proportionnalité, mais c'est aussi la façon de se représenter la figure avec les relations les unes aux autres. Et de façon générale, en géométrie, on va avoir les figures avec leurs différents côtés, on va les chercher en relation. Je me souviens des classes importantes dans mon cursus mathématique, en classe de seconde, quand notre professeur aimait bien nous faire démontrer des choses par différents moyens. L'énoncé de géométrie, allez, on va le démontrer d'une part avec le raisonnement de géométrie analytique, avec des équations, des proportionnalités, tout ça, mais aussi avec la géométrie classique, comme au temps des Grecs, avec des théorèmes de Thalès, avec des droites qui se rencontrent et tout ça, sans jamais écrire un nombre. Et puis aussi, pourquoi pas, avec la démonstration par barycent.
Je me souviens, mon professeur était comme le tien, mais il disait « c'est pour être plus sûr ».
Sûr dans le fait que tu es arrivé à la preuve.
Exactement.
Non, mais tu sais, même quand tu es en recherche au plus haut niveau, quand mon gros article sur l'amortissement Landau, quand il a été Je l'ai présenté de ci, de là, partout, après avoir vérifié toutes les démonstrations plein de fois. J'étais quand même toujours vaguement inquiet. Est-ce qu'il peut encore rester des erreurs dans une démonstration si longue, si compliquée? Quand est arrivé le rapport de l'expert extérieur, le référé, comme on dit, celui qui a passé tant de temps à vérifier tout et qui a dit « tout est OK », j'ai été rassuré, mais j'ai été encore plus rassuré quand, quelques temps plus tard, une autre équipe est arrivée avec une autre démonstration du même résultat. Je me suis dit, là, ouf, là, s'il y a deux démonstrations différentes qui aboutissent au même résultat, là, on peut vraiment être sûr.
Alors, une question quasiment philosophique, est-ce que tu penses qu'une vérité peut avoir deux démonstrations intrinsèquement différentes?
Ma réponse personnelle est oui. Dans une démonstration, il y a la notion de chemin au travers des différents concepts. Et vraiment, le chemin, la trajectoire qu'on prend, elle est importante. Il y a une citation d'Aristote.
C'est un truc d'intello.
Que j'aime beaucoup et que j'utilise régulièrement dans les conférences. On dit en gros, alors évidemment, c'est traduit du grec, parfois pour le sens des mots, c'est pas exactement en correspondance avec les mots qu'on utilise, mais il dit en gros, les trois attributs majeurs de la beauté sont la précision, l'ordre et la commensurabilité. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de choses dans le paysage mathématique. On peut passer à ce prisme, précision, ordre et commensurabilité. Il dit évidemment, il fait le lien avec la question mathématique. Il dit bien explicitement que le raisonnement mathématique est la plus belle forme de raisonnement. Quand on parle de linéarité, par exemple, proportionnalité, bien sûr, c'est une partie importante de cette commensurabilité. Le fait qu'on puisse rapporter telle dimension à telle autre, regardez comment les choses sont en proportion les unes par rapport aux autres. Mais dans commensurabilité, même si c'est pas explicite dans le terme dans le texte d'Aristote, j'aime bien penser aussi la commensurabilité entre les concepts. Et autant sur la proportionnalité, la linéarité, je vois bien là-dedans l'aspect nombre de cette commensurabilité, autant il me semble qu'il y a aussi la question que l'emmanchement des concepts les uns aux autres, c'est quelque chose qui est en plus par rapport à la linéarité. Et pour ce qui est de l'ordre et de la précision, j'aime bien penser que ce sont aussi des attributs supplémentaires qu'on peut lier ou pas à la linéarité.
Comment est-ce qu'on peut corriger cette erreur de 1000%, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens ne l'utilisent plus?
Diantre du diantre, si je le sais. En plus, les expressions, tout ça, ça échappe, ça se diffuse partout. Évidemment, la mauvaise façon de faire, c'est une communication de l'Académie française. Ça ne fera qu'agacer les gens et ils prendront un malin plaisir à l'utiliser. En plus, et de toute façon, l'Académie française doit s'inspirer aussi de ce qui se dit, de la façon dont les gens parlent vraiment pour mettre à jour ses règles. C'est dans ce sens-là que ça doit marcher, pas dans l'autre. Et moi, j'ai envie de dire, c'est notre responsabilité peut-être de mathématicien de dire arrêtez, arrêtez de déconner, en utilisant 1000% sans arrêt, non seulement vous trahissez la belle langue mathématique dans l'articulation entre la pensée claire et le concept mathématique qui était l'une des grandes fiertés françaises, et même vous dévalorisez l'expression, c'est une course sans fin, à partir du moment où 1000%, il y aura 10 000% et ainsi de suite, et on se retrouvera dans la même situation qu'avec un adjectif comme formidable, qui à une époque voulait dire quelque chose de terrifiant et qui petit à petit est devenu un truc sympa, c'est chouette, oh c'est formidable et tout ça. Donc une dévaluation de la langue française qui sera préjudiciable à tout le monde.
Donc c'est notre rôle à nous, mathématiciens, de tenir ce genre de langage.
Mathématiciens et intello.
J'accompagne mes podcasts de musique. Est-ce que pourcentage et musique t'évoquent quelque chose?
Là, tout de suite, comme ça, la chanson des Beatles, Taxman, qui parle de... C'est une chanson anti-impôt, hein, qui parle de tout ce que ça permet de taxer, taxer, taxer.
Alors, vous avez écouté Taxman des Beatles, 1966. Let me tell you how it will be. There's one for you and 19 for me. Laisse-moi te dire comment ça va se passer. Un pour toi et 19 pour moi, parce que je suis le fisc and the taxman.
Si 5% semble trop petit, should 5% appear too small? Sois reconnaissant, je ne te prends pas tout. Be thankful, I don't take it all.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.